en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Avec la mort annoncée des frères Klein et le débat sur le rapatriement ou non en France des djihadistes français partis se battre en Syrie, c'est un film qui résonne on ne peut plus avec l'actualité. Il nous raconte une histoire vraie, celle d'une jeune femme partie avec son très jeune fils à Raqqa et qui s'est retrouvée dans l'enfer de Daesh et qui a réussi à en sortir et à rentrer au terme d'une périlleuse opération menée non pas par les services secrets, mais par des gens comme vous et moi, enfin presque, car eux, ce sont de véritables héros. Comment ? Voilà donc ce que nous raconte ce soir. Le premier long métrage de fiction d'un habitué du documentaire, le réalisateur Emmanuel Hamon. Il met en scène de façon haletante et sans complaisance la complexité syrienne en filmant des personnages non moins complexes, incarnés par Swan Arlo, Jiska Kalvanda, Charles Berling et notre invité Finnegan Oldfield, qui accompagne le scénariste et dialoguiste Benjamin Dupas dans ce studio. Exfiltré sort demain sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Finnegan Oldfield.
Bonjour.
Bonjour Benjamin Dupas.
Bonjour.
Alors je le disais, Benjamin Dupas, vous êtes le scénariste du film, le dialoguiste aussi, mais on peut dire que c'est vous qui avez apporté l'histoire à Emmanuel Hamon ?
Alors, pas exactement, parce qu'il y a des producteurs qui m'ont contacté pour écrire cette histoire, ou qui m'ont parlé un peu des histoires qu'ils avaient en ce moment dans les tuyaux, parce qu'ils avaient eux-mêmes eu vent de cette histoire très très peu de temps après qu'elle se soit produite. Ils étaient séparés par un degré ou deux de cette histoire, par des gens qu'ils connaissaient. Ils m'en ont parlé, moi ça m'a fait tilt. Donc effectivement, on est dans un cas assez rare où le scénariste a commencé à travailler un bon moment avant qu'un réalisateur ou une réalisatrice n'arrive.
Alors, après quoi on a... C'est donc une histoire vraie, hein, c'est indiqué dans le générique. Le film est adapté de la réalité en quelque sorte. Mmh. Comment est-ce que cette histoire a été éventée ? Comment est-ce qu'elle est parvenue à vos oreilles, à ceux du producteur et du réalisateur ?
Alors je vais parler avec les prénoms des personnages du film qui ont été modifiés. Dans le film, il y a Patrice qui est joué par Charles Berling. Hein, qui est un notable
grand chirurgien dans un hôpital parisien
installé, ouvert sur le monde, un peu bourru. Bon, et ben ce gars-là, dans la vraie vie, les producteurs le connaissent. Donc voilà.
Mais ils le connaissent personnellement. C'est-à-dire qu'il y a un lien comme ça, sans même que l'idée du film ne soit apparue, ils le connaissaient déjà.
Voilà.
Donc c'est lui. C'est par ce personnage-là que vous êtes entré à l'intérieur de l'histoire.
Je vais vous raconter un jour l'histoire de la femme de quelqu'un qui travaillait avec moi.
Alors, il y a une femme qui a raconté son histoire, hein, sous un pseudonyme, Sophie Kazicki, un livre publié en 2016 dans la nuit de Daesh. Est-ce qu'il s'agit de cette femme-ci ?
Il s'agit de cette femme-ci.
Et vous avez fait tout de suite le lien entre les deux,
puisque le film n'est pas une adaptation. Le film n'est pas une adaptation du livre. Elle nous a raconté son histoire avant que le livre paraisse. Elle a raconté son histoire à sa manière avec, je crois, une autrice qui a écrit le livre avec elle. Nous, à partir de transcriptions, d'enregistrements, etc., on en a fait un scénario qui est de la fiction. Et c'est là que s'arrête le jeu des sept erreurs. Alors, je veux dire, globalement, il s'agit vraiment d'une histoire vraie dont les cinq protagonistes sont directement tirés des cinq personnages qui l'ont vécu.
Et donc vous les avez rencontrés, chacun d'eux, individuellement, et ce sont les entretiens que vous avez menés qui vous ont permis d'écrire le scénario et d'en tirer des dialogues.
C'est ça, c'est ce qui fait aussi que c'est une écriture de scénario qui ne correspond pas à l'habitude.
Bande annonce.
T'es le seul à pas être au courant, comme d'hab.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Ben Sylvain, l'infirmier, sa femme s'est barrée en Turquie, avec son fils. Ton fils est toujours là-bas ? Hein ? Il pourrait pas aider ?
Elle a complètement pipoté. Maintenant, elle est là, quelque part avec son môme.
Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre-temps ?
Une, mais bon...
Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi ?
On l'a localisée. C'est vrai.
Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. On n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. Faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule.
Mais le petit, c'est bien, faudra le former.
Il pointe là.
C'est bon, j'espère que tu m'entends. Mais on est à Raqqa, j'ai besoin d'aide.
Je vais aller taper directement au ministère.
Mais là, sinon, on peut rien faire.
Je voudrais juste poser une question. Vous pouvez nous aider ou pas ?
Je suis syrien, je voudrais l'asile politique en France.
Débrouillez, c'est toi la DGSE ?
Ce que tu fais nous intéresse. Les réseaux à Raqqa.
Il y a 120 km, plus des patrouilles. Et la frontière, je l'ai passée. C'est très risqué.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire là ?
Bah, trouver l'argent déjà.
Vous savez qui vous avez chopé ? C'est un héros.
Ça se trouve, elle est en train de nous trahir.
Maintenant, à plus.
Tu te rends compte que si ça merde, tu as deux morts sur les bras ?
Exfiltré d'Emmanuel Hamon qui sort donc demain mercredi sur les écrans français avec notamment Gisca Calvanda qui joue donc Faustine, Swan Arlo, Charles Berling et vous Finnegan Oldfield. Votre personnage s'appelle Gabriel. Alors pour rentrer justement dans ce personnage, est-ce que vous avez rencontré le vrai Gabriel ? Est-ce que vous avez fait comme Benjamin Dupas ou...
Hélas non. Hélas non, mais le scénario était assez bien écrit pour il y avait quand même tout dedans. Enfin c'est assez rare de trouver des scénarios aussi haletants et voilà. Et ensuite,
c'est vrai quoi, un scénario bien écrit alors
je pense que tout simplement c'est un scénario qu'on a envie de finir, qu'on veut pas lâcher en tout cas. Et ensuite, c'était un peu le challenge, quoi. Il fallait que le film soit un peu à cette hauteur. Mais donc, c'est vrai que l'histoire était très intéressante. Parle de choses qui mine de rien nous entourent un peu depuis quelques temps, donc que j'avais envie de continuer un peu à défendre, à réfléchir là-dessus. Et puis c'est vrai que en tournant ce film, j'en ai appris d'autant plus. Parce qu'en plus, on joue avec un jeune acteur qui s'appelle Kassem El Rocha, qui est vraiment, qui est syrien en fait, qui est un réfugié politique, qui joue Adnan dans le film et qui a énormément apporté au film. Et voilà.
Alors votre personnage, on évoquera Anan dans un instant. Votre personnage donc s'appelle Gabriel. Il travaille pour une ONG à la frontière turco-syrienne, une ONG qui s'appelle Cédonia.
Pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas? Alors je pense que c'est un de ces jeunes qui se bouge vraiment entre guillemets, qui reste pas seulement autour d'une table entre guillemets à discuter, à dire ouais faudrait changer les choses, mais qui finalement ne fait rien. Je pense que c'est quelqu'un qui a voulu vraiment aller sur le terrain. Plus proche de cette réalité, des Syriens qui ont besoin d'aide, etc., et qui se sent un peu frustré et un peu limité dans ce qu'il peut faire.
Il rêve d'aventure, quoi. C'est quelqu'un qui a le goût du risque.
Je pense, ouais. Je pense sincèrement qu'il a le goût du risque. En tout cas, c'est sûr qu'il va franchir les frontières, il va sortir des sentiers battus, il va aller de l'avant, il va s'émanciper.
Au risque d'ailleurs de remettre en cause les règles de non-engagement des ONG, car on a un peu l'impression au début du film qu'il se sent un petit peu l'étroit dans le milieu des humanitaires qui sont sur place.
C'est ça, non, mais on sent qu'il a une sa bosse entre guillemets dans son ONG, on sent qu'elle est un petit peu relou, qu'elle empêche un peu de faire ce qu'il voudrait vraiment faire, qu'elle est un peu carrée.
Question de sécurité quand même aussi.
Oui, question de sécurité, elle flippe un peu plus, elle se contente d'aider les gens comme elle peut le faire, mais lui je pense qu'il a envie de plus.
C'est un idéaliste.
C'est un idéaliste, je pense, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui y va, quoi. C'est quelqu'un qui y va, c'est ça qui me plaisait bien avec ce personnage.
Voilà, et c'est lui qui va organiser, oui, Benjamin Dupas.
Si je peux dire un mot.
Allez-y, puisque vous avez un petit peu dessiné le personnage.
C'est un jeune d'aujourd'hui, pas forcément comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Il a une volonté très forte et il prend des risques et tout.
Mais des risques calculés, c'est pas une tête brûlée non plus.
Mais c'est quelqu'un qui vit dans une génération horizontale pour qui les frontières et les clivages Orient-Occident, etc., ce genre de vieux repères, n'ont plus vraiment de...
C'est un citoyen du monde, en quelque sorte.
Alors, oui, mais peut-être un peu plus que ça, parce qu'il est dans un réseau d'engagement et d'activisme générationnel. Pour lui, c'est ça qui compte, c'est de se retrouver sur certaines valeurs, un rapport au temps présent, un rapport à l'action, un rapport à la liberté, à la démocratie, bien sûr. Et que, du coup, il est plus forcément dans les systèmes pyramidaux, mais beaucoup plus horizontaux, via Internet, via les vidéos, etc. Il est en contact avec, comme ça, une toile. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier au vingtenaire d'aujourd'hui.
Mais c'est lui qui va organiser, pas tout seul, mais il va être effectivement en première ligne cette fameuse opération d'exfiltration en Syrie pour tenter donc de sauver cette jeune femme française qui s'appelle Faustine. Et c'est lui qui, à la demande de son père Patrice, donc ce grand chirurgien parisien, va parvenir à la localiser. Alors Faustine, il faut le préciser, c'est l'épouse d'un des infirmiers de ce grand médecin, un infirmier qui s'appelle Sylvain, joué par Swan Arlo et qui s'inquiète évidemment pour elle. Premier extrait du film.
Allô, tu m'entends?
Ça va, ça y est, t'as pu aller au consulat?
Non, je suis sur place, là.
Où ça?
À l'endroit de la photo.
Quoi, c'est à Istanbul?
Non, à Urfa, au sud, près de la Syrie.
Mais qu'est-ce que tu fous au sud, près de la Syrie?
Ah, je crois que tu voulais que je t'aide.
Ouais, mais pas que t'ailles là-bas, c'est dangereux, ces coins-là.
Bon, t'inquiète pas pour moi, est-ce que la nana Faustine, elle a envoyé une photo entre-temps?
Si, une, mais bon, c'est le môme en gros plan, dans un parc.
Ouvre-la, s'il te plaît.
Tu veux que je te l'envoie?
Tu tapes CTRL FN MAJ I.
Hein? Attends, redis.
Tape CTRL FN MAJ I.
FN. Ah oui, voilà, ça, tu vois, il y a des données qui apparaissent là.
Tu fais CTRL-C, CTRL-V, tu copies les coordonnées GPS dans Google.
Oui, bon, bah ça va, je suis encore copié-collé.
Bon, c'est bon, tu arrives ?
Tu sais que j'aime pas tellement ton petit ton là.
Ouais, c'est vrai qu'il a l'air quand même assez sûr de lui, hein, ce personnage de Gabriel que vous incarnez, Finn et Gandolfi. Les relations avec le papa sont pas très simples.
Non, j'ai pas l'impression. Non, elles sont pas très très simples.
C'est Charles Berling. Hein,
tout à fait. Le papa. Qui joue Patrice. Mais ouais. Après, ouais, je pense qu'il est encore une. Enfin, il est un peu question d'émancipation, mais surtout qu'ils sont pas du tout dans la même réalité. C'est vrai que Gabriel, lui, c'est on peut dire qu'il est. Enfin, je parle du terrain, mais il est sur place. Je pense qu'il vit ça. En tout cas, du moins, il veut vivre ça pleinement, de manière réelle. Et son père est en France. Il pense qu'il suffit justement de passer un coup de fil au ministère pour que les choses s'arrangent, pour qu'on libère une femme qui est emprisonnée à Raqqa.
Oui, donc effectivement, c'est pas du tout le même rapport à la réalité. En même temps, votre personnage, donc de Gabriel Finn Gandolfi, il parle l'arabe quand même de façon assez ouais. impressionnante. Il faut dire qu'il est né dans un milieu qui ouais. lui a servi justement aussi à appréhender la réalité du terrain.
Bah, l'histoire dit que sa mère est libanaise. Enfin c'est le cas de Gabriel, mais c'est vrai que ça c'était intéressant. Bah
vous avez appris l'arabe, ouais. Vous avez appris des mots comme ça en arabe.
J'ai bossé un peu avec une prof qui est libanaise parce que avant le film. Voilà. Après, j'ai appris aussi beaucoup de choses comme ça. C'est parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a quand même énormément de différences d'accent entre l'arabe, le syrien, le libanais, et évidemment tout ce qui est maghrébin, etc. Mais et donc du coup je bossais avec une prof libanaise et Kassem m'aidait aussi qui jouait avec moi, il m'aidait aussi pour beaucoup de choses.
Il est bluffant dans le film quand il parle arabe, c'est quand même
on a l'impression qu'il fait ça effectivement que c'est quasiment sa langue maternelle. Alors mes connaissances en arabe sont extrêmement limitées, mes connaissances en informatique aussi. Benjamin Dupas, ce raccourci clavier CTRL FN MAJ I, ça marche vraiment pour localiser une photo? J'ai essayé, mais je suis pas arrivé. Mais bon, je dois pas être très très fort en informatique.
Toutes les photos contiennent les coordonnées GPS par défaut. Hein, toutes les photos que vous envoyez, que vous recevez.
Donc voilà. Si je prends moi une photo avec mon smartphone, je la mets en ligne. N'importe qui est capable de dire de quel endroit j'envoie la photo, ou de quel endroit la photo a été prise. Pas tout à fait la même chose.
C'est une bonne question, je vais réviser.
Voilà, merci. Alors, Gabriel, je le disais, a aussi une très bonne connaissance du terrain, Finn et Gandolfi. Est-ce que vous êtes nourri, justement, d'archives, de vidéos, de tous les livres, du livre de Sophie Kazicki qu'on évoquait tout à l'heure, pour pouvoir, justement, rentrer dans votre rôle?
Alors, franchement, j'ai pas lu son livre, pas encore. Je le regrette un peu, d'ailleurs, ça m'intéresse. Mais non, j'ai eu accès quand même à pas mal d'archives, donc qui avaient servi évidemment pour la préparation du film. Il y avait un petit dossier avec des vidéos un peu pirates, des choses diverses et variées, parce qu'en fait mon personnage voilà s'intéresse vachement sur les rafles du Mukhabarat. En gros, il est vachement investi.
Le Mukhabarat, c'est la police politique syrienne.
Et donc lui est vachement là-dedans. Et donc j'ai regardé des vidéos un peu comme ça. Vous savez, il y a des vidéos assez violente, mais pas des courtes vidéos, vous savez, violentes avec des exécutions. Il y a aussi des vraies vidéos de prise où vous voyez l'armée syrienne libre qui est en train de se battre, qui petit à petit prend du terrain. C'est des vidéos amateurs faites avec des téléphones qui sont la qualité même moins bien que des iPhones, et c'est assez impressionnant. Donc j'ai regardé des choses comme ça, évidemment, mais au-delà de ça, j'en reviens toujours à ça. Après je vous lâcher avec ça, mais Kassem, qui a vécu cette réalité syrienne, qui a vécu à Deir ez-Zor, à Raqqa, qui a réussi lui-même à s'enfuir, sa réalité à lui et aussi enfin tout ce qu'il m'a raconté m'a énormément nourri.
Alors, une spécialiste du djihadisme et de la Syrie, nous en avons une avec nous sur notre plateau, Amélie Myriam Chelli. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes docteur en sociologie, membre associé au CADIS. Le CADIS, c'est le Centre d'analyse et d'intervention sociologique qui fait partie de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous publiez le 21 mars un livre intitulé En attendant le paradis, sous-titré Anatomie des radicalisations. C'est aux éditions du CERF. Vous êtes donc intéressé aux trajectoires de djihadistes et vous avez vu, le film qui sort demain en France. Je voudrais qu'on s'arrête pour commencer sur le personnage de Faustine, puisque c'est quand même avec elle que tout commence. Faustine, jeune assistante sociale qui travaille en banlieue parisienne à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Pour commencer, combien y a-t-il de ces Françaises parti rejoindre comme ça les djihadistes en Syrie?
Alors de Faustine, il y en a très peu. De Françaises, il y en a beaucoup plus. Là, par exemple, on sait qu'il y a encore 150 personnes en Syrie qui sont, dont on se demande si elles vont revenir ou pas. On pense qu'il y a 90 adultes. Moitié d'hommes, moitié de femmes. Bon, maintenant, des Faustines, il y en a très peu, parce que c'est une femme qui avait une vie quand même très équilibrée, un mari aimant, qui justement a pris à bras le corps, en fait, ce nouveau combat, l'a vraiment investi et a tout fait pour que sa femme puisse revenir. Un enfant qu'elle prend avec elle, un travail. Donc c'est quand même assez rare.
En plus, un travail d'assistante sociale. Exactement. Donc elle est vraiment en prise à la société. C'est quelqu'un de parfaitement dans la société, dans la vie.
Alors effectivement, dans la version du livre de Sophie Kassiki, la place qui est faite justement aux jeunes dont elle s'occupe est beaucoup plus grande. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des jeunes qui seraient d'abord partis et en fait, ne supportant plus de voir leurs parents par caméra interposée pleurer pour les voir rentrer, ils ont décidé de passer par l'assistante sociale qu'ils connaissent depuis tout petit pour justement garder un contact. Et puis en fait, de fil en aiguille, ces combattants sont devenus des recruteurs. Et effectivement, on voit l'évolution de leur comportement au fur et à mesure. Quand elle arrive avec son fils, ils sont adorables, et puis au fur et à mesure, ils deviennent violents. Donc des Faustines, il y en a extrêmement peu. Dans le film, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, on entend que les femmes ne reviennent pas. Alors effectivement, c'est très très rare aussi. On a le cas de Laura Passoni, une Belge. Mais alors elle, c'est un cas encore un peu particulier, parce que c'est le désenchantement a eu lieu pour elle ainsi que son époux une fois sur place, donc c'est grâce à son époux, enfin le fait qu'ils soient deux, que le chemin inverse a pu être fait. Et effectivement, le cas de Sophie Kassiki est tout à fait paradigmatique, l'inverse, c'est-à-dire il n'est pas du tout exemplaire de ce qui peut se passer sur place, les femmes ne reviennent pas, les hommes beaucoup plus pour différentes raisons.
Mais on parlera du retour dans un instant, mais sur le départ précisément, partir comme ça en zone de guerre avec son gamin de 5 ans, hein, puisque c'est l'âge de Noah dans le film, ça peut semblait complètement fou quand même, non ?
Il y a eu beaucoup de départs de familles entières. Donc là, pour le coup, on n'est plus du tout sur le cas de figure de Faustine. Il y a des familles djihadophiles aussi, donc aucun rapport. Ce sont des personnes qui ont toujours eu des structurants mentaux, des grilles de lecture du monde qui, trait pour trait, c'était la propagande de Daesh avant même l'existence de Daesh, et qui, voyant que progressivement commençait à se faire, à se créer un califat, ils sont décidés de tous partir ensemble. Donc ça a existé. Et puis si on reprend l'exemple de Laura Passoni, c'était aussi le cas, elle est aussi partie avec un enfant qu'elle avait eu d'une première union avec son second époux rencontré sur Internet et lui-même radicalisé.
Est-ce que si on s'efforce de faire une typologie, j'ai bien compris que c'était quand même pas si facile que ça et qu'il fallait éviter effectivement de tomber dans les clichés, est-ce qu'on peut dire que les jeunes convertis sont plus sensibles justement à l'appel du djihad ?
Non, pas forcément. On est dans des proportions qui sont tout à fait raisonnables. Simplement, c'est eux qu'on voit le plus, parce que forcément, l'actualité fait que... Pas forcément, mais effectivement, par contre, ce qui peut être un petit peu, on va dire, inconfortable, c'est les jeunes qui veulent se convertir rapidement. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand vous regardez nos librairies islamiques, en fait, ce sont malheureusement plus souvent des librairies qui mettent en avant des livres islamistes, c'est-à-dire des islams idéologiques, des islams politiques, c'est-à-dire que les premiers livres faciles d'accès, même sur Internet, qui coûtent pas grand-chose, ce sont des livres qui poussent finalement à quelque chose qui est plus proche du wahhabisme que d'un certain nombre d'autres écoles du sunnisme, et donc qui poussent justement à cette radicalité. En fait, les personnes qui se convertissent, mais qui font ça vraiment progressivement, et qui pour le coup ont vraiment un goût de la lecture et de la spiritualité, ils existent, ils sont en très grand nombre. Maintenant, c'est pas eux qu'on voit en premier.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas creusé davantage, Benjamin Dupas, dans le film, les raisons qui poussent Faustine à franchir le pas, à prendre ce risque absolument incroyable dont elle va, qu'elle va ensuite évidemment regretter assez rapidement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu justement expliquer de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus creusée ses motivations ?
Alors c'est une très bonne question, c'est des questions qu'on s'est vraiment posées à l'écriture du scénario, et notamment une fois qu'Emmanuel Hamon m'avait rejoint, de finalement où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on commence. Il y a certaines zones d'ombre qui sont levées petit à petit dans le film. Nous on fait une sorte de pari de dire qu'on va comprendre par puzzle et qu'on va jamais forcément comprendre 100% des choses, mais moi ce que j'ai cru comprendre et ce à quoi j'essaie de croire en racontant cette histoire, c'est qu'il n'existe pas une seule raison, et que quand on lit, en tout cas dans le cas de Faustine, et que quand on lit des articles ou qu'on entend des gens parler, on a l'impression que la radicalisation, c'est un nom féminin singulier, et que tout le monde se radicalise pareil, et puis même que tout le monde est obligé d'être radicalisé, et que tout le monde aussi va faire le djihad, c'est-à-dire se battre. Peut-être que c'est le cas de la grande majorité, mais on ne va pas forcément juste chercher à se battre. Par exemple, l'État islamique a été vendu comme un califat, une sorte d'utopie, de monde qui allait tenter de construire la paix, de donner une utilité à ceux qui n'en ont pas, que Allah avait élu des âmes pures pour aller créer ce califat, etc. Vous voyez, il y a aussi un appel à quelque chose de potentiellement constructif. Alors c'est vrai que ça a l'air absurde, et que quand on est tranquillement installé dans une vie, et notamment dans une vie majoritaire, hein, comme c'est mon cas, je suis blanc, je suis un homme, je suis hétérosexuel, je suis né dans une ville, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Quand on est minoritaire, qu'on est une femme, qu'on est noire, qu'on est orpheline, qu'on est là en l'occurrence en dépression, il peut exister des vulnérabilités très fortes qui font qu'on va croire à un appel d'air, et il y a un phénomène potentiellement sectaire. Donc je sais qu'il y a différentes manières d'expliquer ça. Nous, dans le film, ce qu'on a voulu dire, c'est éviter le chemin unique. C'est pour ça qu'on le construit un peu a posteriori par puzzle.
Parce qu'on a un peu l'impression, effectivement, Amélie Myriam Shelley, que Faustine elle succombe à une sorte d'attrait du mirage, et que subitement, lorsqu'elle arrive sur place, effectivement, eh bien, tout s'effondre d'un coup, quoi. C'est extrêmement violent.
Oui, le passage dans le film est extrêmement bien fait, ce qu'on comprend en un quart de seconde, en fait, que le désenchantement est évident, tandis que c'est beaucoup plus progressif dans le témoignage écrit donc de Sophie Cassis qui a inspiré ce film. Et dans ce même ouvrage, il y a un autre personnage qui est la dépression, qui est là en filigrane, et qui est une de ses vulnérabilités. C'est un terme que vous avez employé et qui est très intéressant et sur lequel j'aimerais revenir. Il y a une très grande psychiatre américaine qui s'intéresse au sujet, notamment elle s'est intéressée aux veuves noires tchétchènes. C'est-à-dire qu'on voit dans le djihadisme féminin un phénomène particulièrement nouveau, alors qu'en fait il est beaucoup plus ancien si on va chez les tchétchènes. Elle parle d'individual vulnerabilities, c'est-à-dire qu'en fait il y a toujours des meurtrières, des fenêtres, des toutes petites fenêtres par lesquelles on vient s'engouffrer en fait le processus de radicalisation. Ce sont des vulnérabilités qui sont propres à chacun. On est dans de l'humain. La radicalisation n'existe pas. Les radicalisations, malheureusement, si. D'où les problèmes à trouver des méthodes miracles à la déradicalisation. Forcément.
Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Benjamin Dupas à l'instant à propos justement des femmes combattantes, c'est vrai que toutes les femmes ne sont pas combattantes. Quoi. Ça reste une minorité. Il y a aussi besoin de femmes à l'arrière,
ultra minoritaire.
Et c'est le cas du personnage de Faustine qui n'est pas du tout en première ligne.
Tout à fait. C'est très très rare. Je crois que la première en Europe, c'est Muriel de Gauque qui est morte en se faisant exploser en Irak en 2005. Après, elle se compte vraiment sur les doigts de la main. Il y a une seule exception pendant le conflit syrien, c'est la brigade Al-Qansa, c'est-à-dire des femmes armées mais qui sont là justement pour s'occuper des mœurs des femmes exclusivement, ainsi que les garder dans le califat si elles voulaient s'échapper. Mais sinon, c'est tout. En fait, on a beaucoup exhorté les femmes à commettre des attentats sur leur territoire, mais absolument pas à prendre les armes sur place. C'était vraiment une utopie pour le coup.
Alors, il y a des images très fortes hein, dans le film. Par exemple, on enseigne au fils de Faustine à manier une Kalachnikov. On lui montre des vidéos d'enfants qui décapitent une peluche. Ce sont des scènes réalistes, Myriam Shelley, des scènes qu'on a pu voir. Effectivement,
ce sont des scènes que j'ai entendues dans de nombreux témoignages. Laura Poissonnier aussi disait que, en fait, c'est quand elle a vu son fils rentrer et essayer d'égorger son ours en peluche avec un couteau, que là, elle s'est décidée à dire à son époux, même si elle mourait de peur, il faut qu'on rentre, quoi. Mmh. Et effectivement, il y avait un certain nombre de témoignages qui m'expliquaient que, des jeunes femmes radicalisées ici, qui ne sont jamais parties, qui comptaient le faire, qui m'expliquaient qu'en fait, elles souhaitaient que leurs enfants soient confrontés quotidiennement à ces images. Donc, si elles en ont entendu parler, c'est qu'elles étaient en communication avec d'autres personnes sur place.
Et à propos du réveil de Faustine, juste un mot. Il y a cet effet, effectivement, où l'enfant vient lui dire des choses qui la réveillent. Et puis, il y a une chose que m'a dit la vraie Faustine qui m'a énormément marqué, c'est que en Syrie, dans la Syrie de l'État islamique, elle a reconnu la colonie. C'est-à-dire qu'elle a vu que ses anciens amis, qui étaient des opprimés anciennement et qui étaient des petites gens un peu dominés, devenaient des dominants, piquaient les voitures, piquaient les appartements et fouettaient des gens dans la rue. Elle a reconnu la colonie, l'ancienne colonie française dans laquelle elle était née, et donc elle s'est réveillée parce qu'elle avait la mémoire en elle de ces traitements-là. Elle s'est rendue compte que les Syriens étaient colonisés par les gens comme elle, qui, au nom de Daesh, et ça c'est quelque chose de très fort, de paradoxal, mais qui n'exonère pas du tout l'État islamique, au contraire, qui dit que l'État islamique reproduit un schéma de domination.
I scrolled down and hit a link that Westminster had been closed. Five people dead, a madman's head lay there leaking on the road. He'd used a car to plow a crowd, stabbed a cop when he imposed. All censors out the picture, so ISIS struck a pose. I heard that an ancient book inspired him to die. The jihad source decoded wrong, enforces that old line. But when words come taught in certain tones, is it the preacher, scribe, or one guy that does the crime? The news lost focus of the man and took the ISIS bait. Ain't the definition of terrorism to gain aims through fear and hate. But fearless people are hard to buy, if what you sell's to keep them safe. And I'll kick out all the terrorists, sounds great in a political debate. Logic states that if you bomb my home, I might not be alone when I remember, and I might need jihad to fill the hole.
Et I Say Lamy Terrorism dans VMDN sur RFI, chanson sous-titrée The ISIS Crisis, autour du film Exfiltré qui sort demain en France, film d'Emmanuel Hamon sur un scénario et des dialogues de Benjamin Dupas qui est avec nous, de même que l'acteur Finnegan Oldfield et la sociologue spécialiste de l'islamisme Amélie Myriam Shelly. Benjamin Dupas, vous avez été le scénariste de la série à succès de Canal+, Kabul Kitchen, qui avait là aussi pour toile de fond la guerre, cette fois-ci en Afghanistan. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'introduction d'une forme de fiction dans l'actualité, et qui plus est l'actualité géopolitique?
Alors, c'est vraiment une question que je me suis posée. Il est difficile d'y répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que justement, quand les producteurs du film ont parlé de différents sujets qu'ils avaient un peu en réserve, celui-ci m'a instantanément capté et j'ai pas pu le lâcher. Parce qu'il y avait l'idée que il y a quelque chose de nécessaire, de difficile à raconter, mais qui n'est pas... Alors, depuis, j'ai appris une expression, c'est « outside in », comme disaient les Américains. Il y a des histoires qui vous viennent de l'extérieur du monde, qui vous percutent, et vous vous dites que en fait, il faut essayer de les traiter et de voir de quelle manière vous pouvez les restituer.
Mais alors, il y a une dimension pédagogique dans votre, oui, bien sûr, votre façon de travailler.
Absolument, et puis il y a une idée de témoignage et de transmission. J'ai pas la prétention forcément de détenir quelque chose de très fort que je vais prendre de moi, le inside out, que je vais dans mes tripes et dire à tout le monde, regardez, c'est très intéressant ma vie. En revanche, le fait de le transmettre, moi j'étais enseignant avant, peut-être qu'il y a aussi quelque chose de ça.
On reconnaît effectivement cette patte-là, effectivement, dans votre traitement de l'histoire.
Bah, j'espère que c'est pas barbant.
Non, pas du tout. Alors, voilà, précisons-le, c'est important, le film n'a pas été tourné à Raqqa, évidemment, ça va sans dire, hein. Il n'a pas non plus été tourné au Maroc comme beaucoup de films qui parlent de cette région en ce moment et dont le décor est la Syrie. Il a été tourné en Jordanie, Finnegan Oldfield, et on le disait tout à l'heure, hein, il y avait des Syriens hein, sur le plateau. Il y a des figurants qui sont d'ailleurs des réfugiés syriens en Jordanie. Ça donnait, j'imagine, une ambiance quand même assez particulière sur ce tournage.
Bah ouais, non, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on a un peu l'impression, bah c'est peut-être c'est probablement un point de vue très naïf, mais quand t'arrives en Jordanie, t'as l'impression que c'est un peu une terre d'accueil. Enfin, il y a beaucoup de, effectivement, il y a des Syriens, il y a beaucoup de gens qui viennent de tout le Moyen-Orient. Ensuite, je crois, apparemment, ils galèrent un petit peu. Voilà, je sais pas si on les aide à fond. J'ai pas assez creusé, mais en tout cas,
il y a 1 million de réfugiés syriens en Jordanie. Hein, Amélie Myriam Shelly. Ce sont des Syriens, excusez-moi. Ce sont des Syriens qui sont partis pour fuir la guerre, tout simplement, oui, ou bien des Syriens hostiles au régime de Bachar el-Assad. Bah,
c'est pas incompatible, hein, bien sûr.
On peut être les deux en même temps. Voilà.
Bien sûr,
ce sont des réfugiés syriens politisés. Ils ont fui le régime politique. Je vais y arriver.
Politisés, je crois que de nos jours, la jeunesse l'est intégralement. En Syrie, et même en fait les personnes qui sont d'origine syrienne ou même libanaise qui vivent ici sont de toute façon politisées. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il a été, par exemple, facile d'arriver à blanchir, entre guillemets, certains djihadistes d'origine franco-libanaise, par exemple, parce que c'était les premiers à partir avant même l'existence du califat. Et en fait, ils pouvaient tout simplement dire, nous, on voulait faire chuter Bachar, on connaît très bien la géopolitique, on connaît rien, par contre, à l'islam, à l'islamisme, ainsi de suite. Et on avait l'impression qu'on allait être accueillis en héros en revenant en France, parce que Bachar était l'ennemi numéro un de toute l'administration Fabius.
Et donc, c'est pas du tout le cas.
Voilà. Donc, la politisation, oui, évidemment, ça parcourt absolument toute la population.
Et c'est le cas de Kassem Al-Rojja que vous évoquiez tout à l'heure, Finnegan
Oldfield. Tout à fait, ouais, bah qui est comme je me tue à le dire, un garçon extrêmement intéressant qui a vécu beaucoup de choses, qui nous parle très bien de ça. Et effectivement, le fait d'être en Jordanie avec lui, honnêtement, quand je suis arrivé en avion avec lui de France en Jordanie, c'est la première fois depuis 2 ans qu'il revenait au Moyen-Orient. Si vous aviez vu son regard, ses yeux, et on sentait qu'il se sentait très 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 proche de chez lui. On y était, hein, on tournait à Amman, et à certains endroits très très proches de la Syrie. On s'est baladé un peu avec lui, et puis lui, évidemment, il a rencontré tout de suite énormément de Syriens. Beaucoup de Syriens ont participé au film. Il y en a un qui est super, qui joue un moment un protagoniste qui va aider Faustine. C'est un mec génial. C'était aussi un Syrien. Ils sont d'une vérité, et ça se voit dans le film, honnêtement. Et c'est des gens qui vous apportent énormément. Et non, c'était super.
Voilà, et puis j'ai lu aussi, alors vous allez peut-être me confirmer, que la police était intervenue sur le tournage parce que c'était tellement réaliste que ça en devenait suspect. C'est vrai, ça?
J'étais pas là ce jour-là, mais c'est vrai qu'effectivement, à un moment, j'ai pris, pour la petite anecdote, j'ai pris la voiture avec des figurants qui étaient déguisés en Daesh, enfin déguisés, qui étaient costumés en Daesh, et on est descendu pour aller sur le studio, et j'ai vu un épicier qui était en train de transporter des palettes. J'ai aussi vu son regard, il a vraiment flippé. Enfin, c'est vrai qu'il devait faire attention avec les autorisations, parce que quand vous n'êtes pas habitué, vous savez pas qu'il y a un tournage, ça peut faire flipper, quoi.
Bon, on sent effectivement que c'est un tournage qui vous a marqué personnellement, au-delà même du rôle. Hein. On s'en sort pas indemne.
C'est hyper enrichissant. Voilà.
Alors, votre personnage donc de Gabriel Finnegan Oldfield va donc faire la connaissance d'Annan, et ils vont faire un deal, hein, en quelque sorte. Hein. C'est tu me permets d'aller en France, et en échange, ben, je vais t'aider à sortir Faustine, quoi.
C'est ça, avant de devenir une histoire d'amitié, en fin de compte. Mais c'est vrai qu'au début, c'est plutôt un deal, quoi. Mais j'ai le sentiment que quand même ce qui pousse Gabriel aussi à faire tout ça, c'est aussi pour Adnan, c'est aussi pour comprendre ça,
il se rapproche vraiment beaucoup, hein,
ils deviennent très potes
au fil du film.
Mais bon, moi je suis épaté, je vous dis, je suis assez épaté par ces jeunes français. Il y en a, hein, qui sont clairement français au début, qui apprennent à parler arabe pour aller aider les Syriens. Ça existe, il y en a qui le bougent, il y en a qui le font, et ça c'est ce qui moi m'a motivé.
Amélie Myriam Shelly, quelques mots sur le parcours d'Adnan, donc ce rebelle syrien qui a été victime des Mukhabarat, hein, qui a eu aussi quelques ennuis avec Daesh. On a un peu l'impression qu'ils sont un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. C'est toute la difficulté
dans
laquelle se trouve l'opposition syrienne.
Entre plusieurs marteaux et plusieurs enclumes même, parce qu'il y a quand même 4 belligérants dans cette guerre. On a même le sentiment qu'il n'y a pas forcément énormément de confiance vis-à-vis des Kurdes aussi. Donc vous avez ce groupe extrêmement hétérogène, vous aviez l'armée syrienne libre, mais aussi des groupes qui sont aussi dangereux que Daesh. C'est-à-dire cela, on en parle très peu.
Donc on peut pas dire il y a les bons et les mauvais. Quoi.
Non, on c'est peut pas. C'est-à-dire qu'on peut faire des alliances de fortune pour libérer. Bon, c'est des compromis en fait, c'est très circonstanciés, quoi. Mais voilà, on parle assez régulièrement du retour de tous ceux qui ont rejoint l'État islamique, mais il y aura aussi le retour de ceux qui sont allés rejoindre Fath al-Sham et ainsi de suite. Donc on n'en a pas terminé avec tout ça. Donc il n'est pas juste entre le marteau et l'enclume. Là, il y a, en fait, c'est ces quatre belligérants dans lesquels ils ne se retrouvent absolument pas.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Finnegan Oldfield, Benjamin Dupas et Amélie Myriam Chély sont avec nous aujourd'hui pour évoquer Daesh, la Syrie, à la veille de la sortie française d'Exfiltré, le nouveau film d'Emmanuel Hamon.
Ça va, tu vas bien?
T'es rentré?
Ouais, allez, un peu improvisé. Je t'appelle Adnan,
ça va?
Un ami syrien et c'est Camille.
Bah, vous tombez bien parce que c'est le père de Noah et les nouvelles sont pas très bonnes.
Bonjour, bonjour. Sylvain.
Salut.
Salut. Bonjour Patrice aussi.
Mais quand elle t'a dit « je veux rentrer », tu l'as cru vraiment? Elle avait l'air sincère.
Oui. Enfin, je me suis pas posé la question. Je veux dire, ça se voyait tellement. Elle avait peur, oui. C'est là qu'ils ont débarqué.
Faut l'aider, là. Adnan, tu connais du monde à Raqqa?
Attends, papa. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui, c'est compliqué, mais on peut pas rester les bras croisés.
Non, mais attends, ce que tu comprends pas, là, c'est que Faustine, elle est pas du tout du bon côté.
Ah bah si, c'est clair. Ça, je comprends très bien. Vous pouvez rien faire.
Bon, Patrice, ça sert à rien.
Exactement, on sert à rien. Alors moi, ce que je vais faire, je vais aller taper directement au ministère.
Voilà, il est à fond, hein. Effectivement, Patrice, Benjamin Dupin, on expliquait tout à l'heure avec vous et Finnegan Oldfield la différence de monde, hein, qu'il y avait entre le père et le fils. Est-ce qu'on peut dire justement que les méthodes que souhaite utiliser Patrice pour venir en aide à Faustine sont des méthodes complètement dépassées aujourd'hui?
Bah alors oui, c'est le film essaye de dire que cette génération-là, qui connaissait une organisation pyramidale assez structurée et qui se disait qu'il fallait tirer les ficelles vers le haut pour pouvoir agir vraiment, en fait, se heurte à l'absence de ficelles, ou en tout cas à l'absence de bras pour aller aussi loin. Et c'est finalement la génération horizontale, beaucoup plus jeune, qui fonctionne par d'autres types de réseaux et d'alliances et de solidarité, qui se met en action. Il y a un renversement au milieu du film avec une scène qui est assez savoureuse. Je vais pas la gâcher. Mais entre Charles Berling et son fils, donc Finnegan, où le père se dit mais t'es qui, que finalement t'es qui, qu'est-ce que tu fais, je te reconnais plus.
On l'entend dans la bande annonce quand même, on l'entend la petite, mais voilà,
et voilà, il y a vraiment cette idée. D'ailleurs, dans les protagonistes de l'histoire réelle, hein, les deux qui jouent Patrice, Sylvain et tout, et ils me disaient que entre eux, au bout d'un moment, ils s'appelaient les bedonnants, pas parce qu'ils sont spécialement bedonnants, mais juste parce qu'ils avaient l'impression d'être finalement tankés, un peu assis sur un fauteuil, et que la nouvelle génération, et de fait, moi quand je les ai rencontrés, là, les jeunes activistes, c'est sidérant. La maturité, les risques qu'ils prennent et la vision du monde qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui est complètement universelle, c'est incroyable.
Et on a un peu l'impression, au passage d'ailleurs, que la diplomatie est un petit peu larguée, les services aussi, parce qu'on se rend compte quand même que la France, et ça peut étonner beaucoup, hein, le spectateur non averti, c'est que finalement, si Gabriel et Annan, donc ces deux jeunes garçons français et syriens, sont obligés de monter eux-mêmes cette opération d'exfiltration de Faustine, de partir sur le terrain et puis après, ensuite à distance, d'agir, c'est parce que les autorités françaises n'ont aucune intention de lancer elle-même une telle opération. Et ça, c'est bien expliqué dans le film à travers cet agent français qui vient rencontrer Sylvain, donc le mari de Faustine, et son chef de service, le fameux Patrice.
Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai sondé un peu le terrain et c'est pas un dossier pour nous.
Ça veut dire quoi?
Officiellement, on n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. C'est un trop gros merdier. La DGSI a bien essayé de dealer avec les services de Bachar pour localiser les Français qui étaient partis là-bas et ça a rien donné.
Pourquoi?
Bachar el-Assad n'a aucun intérêt à détruire Daesh. Ils lui servent d'épouvantail. De toute façon, vous voyez, il y a pire que moi, donc faut me garder en place. Ensuite, les djihadistes qu'on recherche passent en Syrie clandestinement. Donc il n'y a aucune trace dans les fichiers.
Oui, mais elle m'a appelé.
J'ai bien senti qu'elle voulait rentrer, donc là, je vais pas la lâcher. Elle va me dire où elle est, en fait.
Ça changerait pas grand-chose. On n'a pas les moyens d'y aller. Et même si on avait quelques gars sur le terrain, on risquerait pas leur vie pour ça.
Et donc, alors quoi ? C'est moi qui vais y aller, en fait, c'est ça ?
Je peux vous parler une minute ? C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, et qui se rendent compte que la réalité n'est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. On les chope à leur retour, ils passent un sale quart d'heure chez nous, mais ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule.
Il y en a aucune qui arrive à revenir ?
Il faut voir ce qu'ils leur font. Enfin, quand je dis il faut voir, vaut mieux pas voir, en fait. Il faut lui parler. Je sais que c'est compliqué, mais il faut le préparer à faire son deuil. Ok ?
Voilà, ça c'est une réalité, Amélie Myriam Chély, à part l'exception que vous citiez tout à l'heure, les femmes ne rentrent pas.
Les femmes ne rentrent pas, faut voir ce qu'on leur fait, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Il y en a qui y vont pour de l'humanitaire et qui sont pleines de bonnes intentions et qui déchantent en arrivant, mais il y en a qui sont beaucoup plus radicales que leurs époux, qui poussent leurs époux. On a beaucoup de témoignages d'hommes qui se faisaient battre par leurs femmes parce qu'ils refusaient d'aller en Syrie. Et puis une fois en Syrie, en fait, ils étaient motivés par leurs épouses. Et j'avais aussi noté ce tout petit dialogue très intéressant rapporté par Laura Pasoni dont je vous parlais, où en fait elle entendait les bombes tomber et elle était morte d'inquiétude. Elle était dans une madafa, comme il en est question dans le film, c'est-à-dire une maison pour femmes où on se retrouve quand on est une sorte de demi-être parce qu'on n'est pas accompagné d'un époux. Et en fait les femmes se moquaient d'elle et l'insultaient et la brimaient parce que justement elle avait peur de mourir, alors que si Dieu l'avait choisie, c'était un destin extraordinaire et qu'il fallait pas, voilà, elles étaient encore plus radicales dans leurs propos que les hommes.
Autre question à propos de l'extrait qu'on vient d'entendre, la position de la France, sa capacité et sa volonté d'intervenir pour récupérer ces jeunes Français ou Françaises qui se seraient perdus en Syrie et qui voudraient rentrer, ça aussi, c'est un peu la réelle politique, l'a expliqué le personnage dans le film.
Je ne suis pas dans le secret des saints, mais une chose est sûre, l'ennemi au départ, ce n'était pas Daesh, hein, c'était Bachar al-Assad pour la France. Bon, il a fallu, l'affaire du Bataclan...
Avec les attentats,
voilà, il a fallu le Bataclan.
À Paris, ça a légèrement modifié la situation.
C'est à partir de ce moment-là que tout a changé. Mais jusqu'alors, tout à fait. Donc jusqu'à ce moment-là, c'était pas forcément. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une des hypothèses qui effraie le plus, c'est le fait de ne pas réussir à rendre cordiales les relations actuellement avec Bachar al-Assad. Et si on ne récupère pas les djihadistes qui restent, que Bachar al-Assad s'amuse à les relâcher dans la nature et qu'ils reviennent par leurs propres moyens pour faire ce qu'ils ont envie de faire en France.
Mais on pourrait dire que juger ces djihadistes en France, ou en tout cas les entendre, les faire entendre par les services de renseignement, ça pourrait être quand même extrêmement utile, parce qu'ils quand même ils sont allés sur place, donc ils pourraient être des sources d'informations majeures.
Tout à fait, c'est une des raisons qu'on invoque pour justement plaider en faveur du retour des djihadistes.
Et au passage, si je peux me permettre, on voit qu'il y a quand même un suivi intelligent de la part de la DGSE dans notre film. C'est-à-dire qu'il revient, ce monsieur joué par Xavier Legrand, et qu'il contacte le personnage d'Adnan, et puis justement, il prend de l'information, et il a suivi toute cette petite opération d'exfiltration. Donc, il épouse un peu les forces en présence, et il profite de ceux qui sont du bon côté pour eux. Donc, c'est pas bête, hein. Je veux dire, ils sont pas idiots.
Alors, le débat continue en France, justement, sur cette histoire de rapatriement des djihadistes, de leurs familles et de leurs enfants aussi. D'ailleurs, il y a des familles de djihadistes français qui ont déposé plainte, d'ailleurs, auprès du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Ce film, il prend pas du tout parti de ce point de vue-là, Benjamin Dupas, alors qu'il est pleinement, pour le coup, dans l'actualité sur cette question du retour éventuel des djihadistes français. Il fallait justement que vous gardiez une forme de distance, une forme de neutralité là-dessus.
Alors c'est la seule vraie réponse que je peux vous donner, c'est que le film, j'ai commencé à l'écrire en 2015.
La question se posait différemment à l'époque.
Très différemment. Oui. Tout, je veux dire, à l'époque, le grand public commençait juste à se familiariser avec l'appellation Daesh ou État islamique. Ensuite, le film, le scénario, moi, je l'ai terminé avec Emmanuel Hamon début 2017, et puis le film sort début 2019. Qui aurait pu prédire ? Moi, pendant un moment, je m'imaginais que le film allait sortir au moment de la chute de Raqqa, hein, le moment où Daesh allait devoir quitter Raqqa. Finalement, le film est sorti plus tard et maintenant la question du retour est au centre. Le film se termine en donnant une résolution possible très minoritaire. Faut préciser que je pense avoir lu quelque part que la peine moyenne des gens qui sont revenus jusqu'à présent est de 7 ans de prison. Donc c'est pas rien. Quand l'agent de la DGSE dit un sale quart d'heure chez nous, c'est pas un quart d'heure.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir. Benjamin Dupas, Finnegan Oldfield, le film Exfiltré, donc à partir de demain sur les écrans français. Merci à vous, Amélie Myriam Shelley. Votre livre En attendant le paradis, anatomie des radicalisations, sort le 21 mars prochain aux éditions du Cerf.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
C'est une histoire assez incroyable, autre histoire incroyable, mais dans un genre complètement différent, histoire de Viviane Maier, gouvernante pour enfants, inconnue de son vivant. Elle fait des milliers de photographies de rue à New York, Chicago, Los Angeles, jusqu'à sa mort en 2009, et elle est devenue depuis une référence dans l'histoire de la photo. Et pour la première fois en France, une exposition s'intéresse principalement à son travail en couleur. Ça se passe en ce moment à la galerie Les Douches à Paris, et Fanny Blechner, notre reporter, y est allée jeter un œil pour nous.
C'est en 2007 que les premières photos de Viviane Maier sont découvertes par hasard par John Malouf, un jeune agent immobilier de 25 ans. Recherchant des photos d'un quartier de Chicago, il achète le contenu du box de Viviane Maier, hospitalisée et qui a besoin d'argent. Il ne va pas trouver ce qui l'intéressait initialement, mais faire la découverte d'une photographe inconnue qui a accumulé des dizaines de milliers de négatifs. Viviane Maier est née en 1926, elle fait de la photographie dès l'âge de 10 ans, mais va surtout profiter de son statut de nourrice pour arpenter les villes. Elle ne montrera aucun de ces milliers de clichés de son vivant. Françoise Morin est fondatrice et directrice de la Galerie Les Douches.
Elle le disait elle-même, « I am a spy », je suis une espionne, et les enfants étaient sa meilleure couverture pour pouvoir faire des photographies jour et nuit. Ce sont des photographies de rue. En effet, on peut estimer aujourd'hui que Viviane Maier fait partie du grand courant de l'histoire de la photographie de rue. On estime qu'il y a 145 000 photographies, dont 45 000 hectachromes couleur, la plupart n'ayant pas été développées.
C'est ce travail couleur qui est présenté dans l'exposition, alors qu'elle a principalement réalisé des clichés en noir et blanc. Magali Geoffrey, critique d'art, nous décrit l'un de ses portraits de rue pris en 1958.
On voit donc une dame d'un certain âge, quand même assez bourgeoise, comme ça, qui évolue donc dans le quartier où elle gardait les enfants, donc un quartier assez riche, quoi, de Chicago. Et donc, on voit bien qu'elle aborde la personne par son dos, quoi. Et que la personne est extrêmement surprise de voir qu'elle a été photographiée. Et donc, elle se retourne et elle fait un air un peu pincé, d'ailleurs, un peu comme ça. Et justement, je pense que Viviane Maier adorait, comme ça, un peu surprendre les gens qu'elle photographiait. Et en même temps, elle le fait de façon très frontale, quoi. Parce qu'on voit qu'elle est très, très près de la personne. Et elle aimait bien aussi saisir, comme ça, des expressions du visage. Bon. Alors, pourquoi cette photo figure dans le color work? Eh bien, parce que justement, vous voyez, cette dame, elle est toute en rouge, quoi. Elle a un manteau rouge, elle a un chapeau rouge. Viviane Maier a été certainement extrêmement séduite par ce que Joël Meyerowitz, qui est un grand photographe de rue, un street photographer aux États-Unis, appelle les accidents colorés de Viviane Maier. Alors après, vous voyez, sur cette photo, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit des lignes, parce que Viviane Maier est très géomètre, de son œil est très géomètre, quoi. Donc il y a les lignes de la rue, les lignes jaunes, les lignes blanches. Il y a aussi les lignes de Chicago derrière avec les gratte-ciels, voilà. Donc, elle aimait bien ça.
Autre photo typique de ses goûts photographiques, un cliché en largeur présentant son ombre portée sur un journal au sol. Il faut dire que Viviane Maier se met souvent en scène, apparaissant très fréquemment dans différentes vitrines ou miroirs, comme une Mary Poppins à l'air un peu inquiétant, qui portait toujours son reléflex en bandoulière sur la poitrine, un moyen pour elle de faire des photos très discrètement, Françoise Morin.
Elle était très sûre d'elle. Elle avait une très grande connaissance de la photographie et elle ne faisait, ce qui nous semble absolument incroyable, qu'une seule prise de vue ou des fois deux. J'ai eu la chance de voir les planches contact, c'est assez hallucinant.
Une assurance qui lui permet de saisir des détails, des attitudes sur le vif. Les sujets semblent souvent à portée de main des visiteurs dans cette exposition.
Fanny Blechner dans VMDN dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec le comédien Lambert Wilson qui joue le misanthrope de Molière au Théâtre Libre dans une mise en scène de Peter Stein, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous
faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.